RFI, 8h à Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin.
Et le journal avec vous, Jeanne Bartoli. Une mobilisation d'ampleur hier à Istanbul, mais aussi Ankara ou encore Izmir.
Et dont 45 villes de Turquie au total pour s'opposer à l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, figure de l'opposition à Recep Tayyip Erdogan. Troisième jour de mobilisation avec notamment les étudiants à la pointe du mouvement. Reportage à Ankara dans un instant. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne révoltés par le nombre de victimes civiles des bombardements israéliens à Gaza. Les trois pays le disent dans un communiqué commun publié hier soir. Au Gabon, ils seront finalement 8 en lice pour la présidentielle. La Cour constitutionnelle repêche 4 candidats. Les détails dans ce journal. On reviendra aussi sur la disparition d'une légende de la boxe, George Foreman, mondialement connu pour avoir affronté Mohamed Ali en 74 à Kinshasa. Il était aussi et surtout double champion du monde et champion olympique. Puis que savent les jeunes Français du VIH ? En France, un jeune sur trois pense qu'on peut en guérir. Reportage à la fin de ce journal.
En Turquie, ils ont bravé l'interdiction de manifester pour la troisième nuit consécutive.
La colère ne retombe pas après l'arrestation du maire d'Istanbul et rival de Recep Tayyip Erdogan, Ekrem İmamoğlu. Des centaines de milliers de manifestants ont afflué hier soir à l'appel du parti d'opposition du CHP, malgré donc l'interdiction de manifester décrétée à Istanbul, Ankara et Izmir. Ekrem İmamoğlu, accusé de corruption et de terrorisme, il devrait être présenté ce soir à un juge. Et parmi les manifestants, hier, à nouveau, de nombreux étudiants. Notre correspondante à Ankara, Anand Lower, a rencontré deux jeunes Turcs qui soutiennent la mobilisation.
Eren et ses amis ont rejoint les protestations dès le jour de l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu. Pour cette étudiante en droit, il ne s'agit pas seulement de soutenir le maire d'Istanbul.
İmamoğlu, c'est le catalyseur. Mais bien au-delà de sa personne, les jeunes sont dans la rue parce qu'on en a ras-le-bol de vivre dans ce pays où le droit n'existe plus.
Dans les grandes villes étudiantes, la jeunesse est en première ligne. Ces jeunes que certains disent apolitiques, qui étaient encore des enfants à l'époque des manifestations antigouvernementales de Gezi en 2013. Eşil, 22 ans, dénonce un cliché.
Les jeunes ne sont pas apolitiques. Depuis des années, beaucoup ont peur. Ils sont paralysés, réprimés par le pouvoir. Mais je sens que quelque chose est en train de changer, de se casser et que ça va continuer.
Pour la première fois depuis Gezi, le CHP, premier parti d'opposition, celui d'Ekrem İmamoğlu, appelle à descendre dans les rues. Pour Eşil, le mouvement de contestation pourrait se généraliser à une condition.
Si le CHP continue d'appeler les gens à descendre dans la rue, c'est la seule façon de convaincre ceux qui critiquent le gouvernement. Mais ils le font de chez eux sans passer à l'action. Il faut leur faire sentir que se mobiliser peut réellement changer quelque chose.
En attendant, ces étudiantes continuent de braver l'interdiction de manifester, décrétée à Istanbul, Ankara et Izmir, les trois plus grandes villes turques. Anand Loer, Ankara, RFI.
Et selon le ministre de l'Intérieur qui s'exprimait hier, 97 personnes ont été arrêtées à travers le pays après ces manifestations. Plusieurs journalistes qui couvraient les rassemblements ont par ailleurs été blessés à Istanbul par les forces de l'ordre.
En Israël, le bras de fer entre Benjamin Netanyahou et la Cour suprême.
La Cour suprême qui a suspendu hier le limogeage du patron du renseignement intérieur israélien, Ronen Bar, acté par le gouvernement il y a de cela 24 heures. 5 recours ont été déposés dans la foulée par l'opposition. La Cour suprême a annoncé que des audiences auraient lieu d'ici au 8 avril. C'est le gouvernement qui décide qui sera le chef du Shin Bet, à lui persister dans la soirée Benjamin Netanyahou. Israël, qui poursuit par ailleurs ses bombardements meurtriers sur Gaza. Ils ont fait 520 morts depuis mardi. Un quotidien invivable, un enfer pour les Gazaouis entre bombardements et coupures de l'aide humanitaire depuis maintenant presque 20 jours dans l'enclave palestinienne. Écoutez Sam Rose, directeur adjoint de l'UNRWA.
Les gens craignent à nouveau le pire et nous pouvons affirmer catégoriquement que les progrès que nous avons réalisés en tant que système d'aide au cours des 6 semaines du cessez-le-feu sont déjà en train d'être annulés. Tout cela se déroule dans un contexte où aucun approvisionnement n'est parvenu à Gaza depuis le début du mois de mars, soit depuis environ 19 jours. Il s'agit donc de la plus longue période depuis le début du conflit en octobre 2023, au cours de laquelle aucun approvisionnement n'est entré à Gaza. Gaza. Il s'agit de fournitures d'aide, de fournitures commerciales, mais aussi de carburant qui permet à tout ici de fonctionner. Il nous reste à peu près de la farine pour 6 jours environ. Nous pouvons bien sûr prolonger cette période en donnant moins aux gens et nous devons toujours garder des réserves en place pour les familles qui sont évacuées.
Sam Rose, directeur adjoint de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, joint par Joris Zilberman. Hier, dans un communiqué commun, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont appelé à un retour immédiat à un cessez-le-feu à Gaza, se disant révoltés par le nombre de victimes civiles. L'actualité, c'est aussi la Russie qui annonce avoir intercepté 47 drones pendant la nuit lors d'attaques lancées par l'Ukraine sur plusieurs régions. Il y a 6 blessés selon les autorités russes. Les deux pays ont intensifié ces dernières semaines leurs attaques aériennes dans le contexte des négociations que tente de mener Donald Trump pour imposer une trêve en Ukraine.
Au Gabon, ils seront finalement 8 en lice pour la présidentielle.
8 candidats à la présidentielle du 12 avril prochain, en plus des 4 personnalités dont les dossiers avaient été validés il y a 2 semaines par la commission d'organisation du scrutin. 4 autres ont été repêchés hier par la Cour constitutionnelle. Les détails avec François Mazet.
Sur les 19 candidats écartés par le ministère de l'Intérieur, 13 avaient formé des recours auprès de la Cour constitutionnelle pour tenter d'être intégrés à la course à la magistrature suprême. Parmi eux, seuls 4 ont obtenu gain de cause. 2 ans après avoir participé au scrutin annulé de 2023, Thierry Yvon Michel Ngoma et Axel Stophen Ibinga Ibinga participeront à une deuxième campagne. Ce sera une nouveauté en revanche pour Alain Simplice Bungueres et Zenabaninga Channing. Cette chef d'entreprise de 36 ans avait été la première candidate à se déclarer le 7 février. Elle sera bien de la partie et la seule femme parmi les 8 prétendants. Les 4 repêchés rejoignent Brice Clotaire-Oligine Nguema, Alain-Claude Billy Binzé, Stéphane Boussengui Loco et Jacques Lapensée-Essingon. C'est fini en revanche pour Jean-Rémy Yama. Le syndicaliste, 2 fois emprisonné sous Ali Bongo, avait ajouté à son dossier le certificat de naissance manquant, prouvant l'origine gabonaise de sa mère. Mais la Cour n'en a pas tenu compte. Est-ce les valeurs d'honnêteté, de probité et d'intégrité que j'incarne qui vous font peur, a-t-il écrit sur sa page Facebook à l'adresse du chef de la transition.
François Mazet du service Afrique d'RFI.
RFI 8h07 à Paris, c'est une défaite qui l'aura propulsé comme star mondiale.
Il était pourtant bien plus que le boxeur qu'avait envoyé au tapis Mohamed Ali à Kinshasa en 1974 lors du combat du siècle. L'américain George Foreman, boxeur de génie, double champion du monde et champion olympique, s'est éteint hier à l'âge de 76 ans. C'est sa famille qui l'annonce. Son portrait ce matin avec Loïc Piala à Los Angeles.
George Foreman ne s'en cachait pas. Celui qui a grandi dans la misère a été un bad boy, un adolescent violent et voleur. La boxe canalise cette mauvaise énergie et sa puissance fait des ravages chez les poids lourds. En 1968, Big George décroche l'or olympique à Mexico. Le boxeur noir célèbre sa victoire en agitant le drapeau américain, mal vu en période des droits civiques. Il devient champion du monde en 1973 en terrassant Joe Frazier. Titre perdu l'année d'après contre Mohamed Ali dans le Rumble of the Jungle, le combat du siècle, où le public lui donne le rôle du méchant. Il prend sa retraite à seulement 28 ans pour se réinventer en pasteur, mais en 1987, des problèmes d'argent le ramènent sur le ring. Pas grand monde ne l'imagine capable de retrouver les sommets, et pourtant, il redevient champion du monde en 1994, à 45 ans, du jamais vu. L'ancien symbole de force brute est désormais un homme sympathique et populaire. Sa carrière terminée, sa bonhomie lui permet de vendre des millions de grilles portant son nom et fait parfois oublier qu'il a été l'un des plus redoutables boxeurs de l'histoire. Loïc Piala, Los Angeles, RFI.
Et puisqu'on parle de sport, un mot de Kirsty Coventry, la future patronne du Comité international olympique et l'invitée de Mondial Sport cet après-midi. Elle s'exprime au micro de Christophe Diremzian. Ce sera tout à l'heure à 16h10, temps universel.
Direction les États-Unis où la démarche rappelle un peu sa loterie électorale controversée.
Oui, lors de la campagne présidentielle, cette fois Elon Musk crée la polémique autour d'une élection, celle décisive pour la Cour suprême du Wisconsin. Elle doit avoir lieu le 1er avril prochain et Elon Musk a décidé d'offrir $100 à ceux qui signeront une pétition dénonçant, je cite, les juges militants, Marine de la Moissonnière.
$100 pour tout électeur du Wisconsin qui signe la pétition, 100 de plus pour chaque personne qui l'incitera à faire de même. Une fois de plus, Elon Musk met la main à la poche pour peser sur le cours d'une élection. Cette pétition lancée par son organisation politique America PAC s'en prend aux juges qui, peut-on lire, réécrivent les lois en fonction de leurs opinions personnelles ou politique. Le 1er avril, les habitants du Wisconsin sont appelés à élire un juge de la Cour suprême de leur État, cour qui pourrait pencher du côté conservateur, ce qu'espère bien l'homme le plus riche de la planète. Les démocrates, eux, l'accusent d'acheter des voix, alors que son entreprise Tesla vient de porter plainte contre l'État du Wisconsin qui s'oppose à des ouvertures de concessions. Déjà lors de la campagne présidentielle, Elon Musk avait lancé une loterie consistant à offrir $1 million chaque jour à un électeur inscrit dans l'un des 7 États décisifs pour la victoire et qui avait signé une pétition conservatrice. Un procédé illégal lui avait alors rappelé le ministère de la Justice.
Marine de la Moissonnière. L'actualité en France, après plus de 10 heures de délibérés, la Cour d'assises spéciale de Paris a condamné hier le djihadiste Mehdi Nemmouche à la réclusion criminelle à perpétuité, le reconnaissant coupable d'avoir été le geôlier de 4 journalistes français otages du groupe État islamique en Syrie en 2013, mais aussi de toutes les victimes syriennes anonymes.
Enfin, Jeanne, il y a de quoi s'inquiéter 31 ans après la première édition du CIDAction.
Oui, il y a de quoi s'inquiéter autour de la banalisation du virus, notamment chez les jeunes générations. Le VIH-SIDA n'est toujours pas perçu comme une menace et beaucoup de collégiens et de lycéens ne connaissent pas les modes de transmission, je vais y arriver, du VIH. C'est ce qu'a pu constater Mathias Troud, qui est allé à la rencontre d'élèves d'un lycée du nord de Paris.
Dans les classes de lycée, les idées reçues sur le sida ont la vie dure. Environ un jeune sur trois croit que l'on peut en guérir ou que l'on peut contracter le virus par la salive. Nous rencontrons deux lycéennes particulièrement concernées. Elles sont en filière accompagnement, soins et services à la personne. Mais quand on leur demande ce que sont les dangers du VIH...
Je sais plus si on les avait appris, mais normalement... Mais je m'en souviens plus du coup, mais
d'accord,
c'est pas
grave. Il y aura un contrôle sur ça, genre.
Je vais la laisser répondre parce que je m'en souviens plus du coup, si tu t'en souviens.
Non, je m'en rappelle plus. Pour réviser les cours.
Si elles veulent réussir leur contrôle, ces deux élèves devront dire que le VIH s'attaque au système immunitaire. Le corps devient alors plus vulnérable aux infections et aux cancers. Pour se protéger, les moins de 26 ans disposent de préservatifs gratuits en pharmacie. Ces élèves de première sont au courant, mais dubitatifs.
Je préfère prendre les payantes, puisque c'est plus de sécurité, entre guillemets.
La qualité.
Ouais, la qualité peut-être.
Les préservatifs gratuits subissent pourtant les mêmes contrôles qualité que ceux vendus en magasin. Depuis leur gratuité en pharmacie, le nombre de préservatifs remboursés par l'assurance maladie a connu une forte hausse selon le ministère de la Santé.
Le reportage de Mathias Troud.
Et le journal de Jeanne Bartoli, merci beaucoup. RFI Matin, troisième et dernière heure. Dans moins de 20 minutes, un nouveau journal et retour notamment sur la reprise hier du palais présidentiel par l'armée à Khartoum face au FSR. Avant-goût aussi d'un entretien exceptionnel aujourd'hui sur RFI. Tout juste élue présidente du CIO, la Zimbabwéenne Kirsty Coventry sera tout à l'heure au micro de Christophe Diremzian dans Mondial Sport. Et vous entendrez un extrait de cette interview à 7h30 temps universel. À suivre d'ici là notamment jusqu'où va la science et la recherche menacée, censurée par Donald Trump aux États-Unis. Et puis dans notre reportage culture, la rencontre entre la cora du Sénégalais Ablaye Sissoko et l'accordéon du Français Cyril Breteau. C'est très beau, mais tout de suite la revue de presse. Avec vous, Catherine Potet, le tour de la presse internationale et à la une, les nouvelles menaces du gouvernement israélien.
Israël va s'emparer de davantage de territoires et avertit le Hamas qu'il annexera une partie de Gaza. Ces menaces du ministre israélien de la Défense sont ce matin à la une du Guardian. Avertissement lancé donc par Israël Katz qui a précisé « Plus le Hamas refusera de libérer les otages, plus il perdra du territoire qui sera annexé par Israël ». Depuis la nouvelle offensive de l'État hébreu lancé mardi, les attaques sont ininterrompues pendant la nuit dans une grande partie de Gaza, ajoute le quotidien britannique, qui a pu joindre un travailleur humanitaire basé sur place, lequel raconte les bombardements, c'est jour et nuit, dit-il, drones, avions, artillerie, chars, tout le temps, c'est pire que jamais. Le journal israélien Haaretz pense lui aussi que le gouvernement de Benjamin Netanyahou est sur le point de lancer une offensive d'envergure. Israël se prépare à occuper Gaza et à contrôler totalement la population palestinienne, écrit le journal d'opposition. Et pour ce faire, le gouvernement israélien peut compter sur Donald Trump qui, selon Haaretz, semble prêt à soutenir Netanyahou s'il décide de lancer une opération terrestre à grande échelle après les frappes aériennes massives de cette semaine.
En France à présent, Catherine, une expulsion qui fait du bruit.
Un Marocain qui vivait légalement en France depuis 24 ans a été expulsé, annonce Le Parisien, qui précise Hassan Youssefi a été expulsé sans avoir pu dire au revoir à ses deux enfants ni prendre ses affaires personnelles. Il avait été condamné à plusieurs reprises pour des délits. Son avocate dénonce une erreur procédurale. Selon elle, ce père de famille a été expulsé sur la base de la loi Darmanin, votée lorsque Gérald Darmanin était ministre de l'Intérieur, qui simplifie le renvoi des délinquants étrangers hors du territoire français. Mais l'avocate dénonce plusieurs irrégularités sur le plan juridique et elle ajoute qu'Hassan Youssefi, 46 ans, n'est ni un terroriste islamiste, ni un violeur, ni un assassin. Il a payé sa dette à la société, il a fait de la prison quand c'était nécessaire, explique-t-elle. Selon la campagne d'Hassan Youssefi, Catherine Guette, ils l'ont ligoté des chevilles à la table, lui ont mis un casque avec des trous pour respirer et l'ont maintenu plié en deux pendant les 3 heures de vol jusqu'au Maroc. C'est inhumain, ajoute-t-elle, les enfants n'ont même pas pu lui dire au revoir. On essaie de tenir comme on peut, raconte cette femme de 47 ans, c'est lui qui faisait tourner la maison, moi je suis en invalidité. La vie d'une famille est détruite, se désole encore l'avocate, mais la préfecture de Haute-Saône où vivait Hassan Youssefi est inflexible, expliquant qu'il avait fait l'objet de 13 condamnations entre 2005 et 2023 pour un total de plus de 6 ans d'emprisonnement et ajoutant que les multiples condamnations et séjours en prison sont antinomiques de l'intégration dans la société.
Enfin, Catherine, la disparition de George Foreman suscite des réactions dans le monde entier.
Et tout d'abord, bien sûr, dans son pays, les États-Unis. George Foreman, champion de boxe et magnat du barbecue, décède à 76 ans, titre le New York Times, qui résume ainsi un peu sèchement la vie du boxeur. Il a remporté un titre mondial à 20 ans, un autre à 40 ans, puis il a utilisé sa renommée, son caractère sympathique pour créer une société de barbecue valant plusieurs millions de dollars. Le Monde pleure l'ancien champion du monde, titre de son côté La Nation, le journal argentin qui se souvient de son emblématique combat contre Muhammad Ali. En France, Le Monde rappelle qu'effectivement, le boxeur reste associé au combat du siècle de 1974 face à Muhammad Ali à Kinshasa, au cours duquel il perdit devant 100 000 spectateurs son titre de champion du monde des lourds.
Catherine Potet pour la revue de presse, merci beaucoup. Jusqu'où va la science ? Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour Julien.
Jusqu'où ira la science aux États-Unis, où la production de connaissances et la liberté de la recherche sont en grand danger, menacées par le gouvernement Trump. Désormais, toutes les recherches qualifiées de « woke » sont suspendues, elles ne seront plus financées. Mais Caroline, qu'est-ce que c'est au juste qu'une recherche « woke » ?
Eh bien, selon le sénateur républicain du Texas, Ted Cruz, ce sont des recherches qui font, je le cite, « la promotion de perspectives politiques radicales et de théories néo-marxistes ». Sauf que, parmi les 3500 recherches épinglées dans son rapport paru en février, se retrouvent aussi bien des projets de recherche sur les ondes gravitationnelles que sur le séquençage du génome des feuilles de menthe ou encore sur la mise au point d'un biocapteur pour détecter les maladies infectieuses. Quel peut bien être le point commun entre toutes ces recherches étiquetées woke et donc mises à l'arrêt privées de toute subvention ? C'est demandé le site québécois Science Presse. La réponse est dans les mots-clés utilisés par l'équipe du sénateur républicain pour identifier dans la base de données de la National Science Foundation, la NSF, les recherches à abattre. 699 mots-clés comme diversité, genre, trauma, femme, ségrégation, changement climatique ou encore l'acronyme POC pour personne de couleur, un acronyme qui en science signifie aussi point de contact. Ce qui peut engendrer de grandes confusions de genre justement, d'autant que l'équipe de Ted Cruz a admis ne s'être absolument pas intéressée au contenu des recherches incriminées, qu'ils n'ont même pas trouvé le besoin de lire. Il suffisait qu'elles contiennent un mot-clé pour être considérées comme woke et donc cancelled ou annulées en bon français. Ce qui a été le cas de nombreux projets concernant la biodiversité, qui contient le mot-clé « diversité », un mot interdit désormais à la National Science Foundation, tout comme les mots « institutionnels » ou « historiquement ». Le Washington Post a d'ailleurs publié une liste de tous ces mots, désormais interdits non seulement à la NSF, mais aussi au ministère de l'Agriculture ou dans la communication des agences de santé.
Par exemple, quels mots sont interdits ?
Eh bien, tout ce qui peut avoir un lien plus ou moins proche avec le genre. Même « personne enceinte » n'est plus possible. Mais l'un des plus gros mots, c'est celui de changement climatique. Le ministère de l'Agriculture a donné la directive de supprimer toutes les pages contenant le mot « changement climatique » en attendant de les réviser pour les remplacer par « résilience climatique », bien plus chic. Mais il n'y a pas que les mots qui disparaissent du paysage de la recherche. Plus de 3000 pages du site web de CDC, le Centre de contrôle des maladies, ont disparu, purement et simplement. Est-il besoin de préciser qu'il s'agit principalement d'études sur les disparités raciales et ethniques en termes de maladies ou sur des programmes de prévention pour des familles à faible revenu? Près de 150 pages concernant la toxicomanie et la prévention des troubles mentaux se sont ainsi volatilisées. La virologue Angela Rasmussen de l'université de Saskatchewan explique dans la revue Science qu'après avoir constaté la disparition de toutes les données sur le VIH-Sida, rien que ça, et sur la page également sur les facteurs de disparité en santé, elle a décidé de passer ses nuits à télécharger et à sécuriser des données notamment sur la surveillance de la grippe influenza, inquiète du sort qui pourrait leur être réservé. Voilà à quoi en sont réduits les chercheurs et chercheuses de la première puissance scientifique du monde qui tentent désormais de passer sous les radars de la censure en se regroupant pour masquer sous des intitulés autorisés leurs thématiques de recherche qui n'ont de woke que le nom qu'on leur donne pour les éliminer.
Jusqu'où va la science ? Et Caroline, on vous retrouve la semaine prochaine au programme d'Autour de la question.
Lundi, nous revenons sur de stupéfiantes découvertes archéologiques avec des chercheuses tout terrain. Et mardi, on se réconcilie avec les nombres en découvrant les mathématiques de l'amour. Si, si, ça marche.
Merci Caroline Lachowski. Bienvenue dans le game. Bonjour Jennifer Lufaux.
Bonjour.
Impossible de parler de l'actualité jeux vidéo cette semaine sans mentionner la sortie d'Assassin's Creed Shadows.
Oui, il est enfin là. Le nouvel opus de l'une des plus grandes licences de jeux vidéo au monde est disponible depuis ce jeudi. Assassin's Creed Shadows était très attendu par les joueurs et les joueuses pour un tas de raisons. Alors succès commercial ou échec total ? On a enfin plus d'informations sur le jeu et les premiers retours sont très positifs. Assassin's Creed Shadows devrait proposer des graphismes époustouflants. Le jeu est décrit comme étant visuellement impressionnant avec des décors parmi les plus beaux jamais vus sur cette génération de consoles. Il propose aussi un monde ouvert, immersif, hein, parce que le passage à une conception exclusive pour les consoles de dernière génération a permis aux développeurs de créer un monde ouvert plus détaillé et vivant. Également des variations saisonnières dynamiques, puisque l'introduction de changements saisonniers offre 4 versions distinctes du Japon féodal, chacune avec une atmosphère et une apparence unique. Enfin, Assassin's Creed Shadows va proposer une ambiance immersive avec des effets visuels comme la lumière filtrant à travers les feuilles en automne qui contribuent à une expérience immersive et mémorable.
Et quelles sont les notes attribuées au jeu jusque-là ?
Bah, du côté de la presse, Shadows reçoit des scores très favorables. Hein. On est sur du 81 sur 100 chez Metacritic, 81 également pour IGN, Gamekult et aussi PC Gamer. Du côté des joueurs sur Steam, les évaluations sont très positives, alors même que le jeu est à peine sorti. Au niveau des ventes, eh ben, il est un peu trop tôt pour savoir si le jeu aura atteint les ventes espérées. Je vous en dirai des nouvelles très prochainement. Ce qui est sûr, c'est que Assassin's Creed Shadows reste la licence la plus coûteuse d'Ubisoft. On parle d'au moins 100 millions de dollars, hein, un budget qui va au-delà des blockbusters dans le milieu du cinéma. Une production si coûteuse que ses ventes pourront peut-être sauver Ubisoft des rumeurs de rachat et participer également à redorer son blason vis-à-vis des procès pour harcèlement et discrimination dans lesquels l'éditeur s'est engouffré ces dernières années. Blood for blood.
Et Jennifer, ce nouvel opus d'Assassin's Creed, qu'en disent les réseaux sociaux ?
Jusque-là, je vous ai raconté le côté positif des choses, mais sur les réseaux sociaux, la sortie du jeu a de nouveau suscité l'indignation, non pas de la part de Japonais, mais bien en France et aux États-Unis. Des youtubeurs se saisissent de la sortie du jeu pour créer le buzz en proclamant des commentaires misogynes et racistes vis-à-vis des journalistes qui parlent positivement de Shadows. Ils visent des femmes qui donnent leur avis sur le jeu et critiquent le personnage de Yasuke ainsi que des journalistes noirs du secteur. Leur stratégie, qui consiste à s'organiser pour dénigrer en masse un jeu jugé woke, a fonctionné puisque déjà en 2024, ses créateurs représentaient 22% de la couverture médiatique sur Assassin's Creed Shadows, alors même qu'il n'était que 0,8% des internautes qui en parlaient. Pour rappel, ces comportements, bien que graves, sont peu punis par les plateformes YouTube et X. Des internautes et notamment l'association Afro-Gameuse ont signalé et condamné ces faits sur les réseaux sociaux, rappelant que la haine n'a sa place ni dans nos vies, ni dans nos jeux.
Bienvenue dans le game. Merci Jennifer Lufaux. Bientôt 7h30, en temps universel et avant le retour du journal de la musique, la rencontre entre une cora et un accordéon, le Sénégalais Ablaye Sissoko et le Français Cyril Brotteau, amis et compagnons de route depuis 5 ans, ils sortent un deuxième album intitulé Gio, une complicité humaine, musicale, deux instruments entremêlés qui ont ravi le public du festival Babel Music XP à Marseille, où ils se produisaient jeudi soir. Notre reportage culture, signé Olivier Roger.
Chérie est fan de la musique d'Ablaye depuis Le Griot Rouge, depuis très longtemps. J'ai invité Ablaye à venir faire un concert solo dans notre salon. Ablaye a accepté, on ne se connaissait absolument pas.
Voilà. Donc Ablaye, quand on vous dit bonjour, je ne vous connais pas, mais venez chanter dans mon salon, vous acceptez?
Non, pas forcément, non, non.
Sinon...
Non, j'aimerais bien. Mais la plupart, j'accepte. Hein. Moi, je sais d'où je viens, c'est-à-dire ma tradition, ma culture, en étant un griot aussi. Souvent, quand on appelle un griot, s'il n'est pas occupé, il n'a pas le droit de refuser.
Début que je joue, moi je joue des musiques de tradition populaire occitane du sud de la France, et le contexte actuel, c'est le contexte de danse, le contexte de bal. Là on n'est plus du tout dans le même contexte, on n'est plus du tout dans la même musique, donc il m'a fallu un peu pousser la réflexion pour savoir comment est-ce que j'allais faire. Alors après, on se rend compte qu'on n'entend pas les trucs du tout pareil, le début, les fins, les structures, les machins, tout ce que tu veux techniquement. Et en fait, au bout d'un moment, on dit bon, mais tu sais quoi, on va arrêter d'en parler, et en fait, on va jouer.
Derrière les instruments, il y a les hommes. Maintenant, quelle est l'histoire que ces hommes-là veulent raconter, en fait, c'est ça. Donc, si on a envie vraiment de raconter nos histoires, il n'y a pas de raison que les instruments ne suivent pas.
On s'alimente tous les deux en se faisant des propositions, et évidemment on passe un temps à se les approprier, on passe un temps à les jouer, on passe un temps à s'en imprégner.
Et si le feeling est là et cette envie de partager, voilà, c'est une chose très naturelle aussi.
D'Ablaye Sissoko, l'accordéon de Cyril Brotteau et leur voix au micro d'Olivier Roger. Leur deuxième album s'appelle Gio et notre reportage culture est à retrouver sur RFI.fr.
RFI à Lomé, 91.5 FM. Sao Tomé, 102.8 FM.
Découvrez l'exposition Paris Noir au Centre Pompidou à Paris. Paris Noir met en lumière 150 artistes africains, caribéens et africains-américains qui ont fait de Paris un foyer de création et d'engagement, de liberté et de résistance des années 50 aux années 2000. Ils sont célébrés pour la première fois en France. Paris Noir, circulation artistique et lutte anticoloniale jusqu'au 30 juin au Centre Pompidou à Paris. Plus d'informations sur centrepompidou.fr. En partenariat avec France Média Monde.
L'atelier des médias, Steven Jambot.
L'administration Trump a entamé le démantèlement des médias publics américains opérant à l'étranger. Pour comprendre ce que sont ces médias qui ont pour nom Voice of America ou encore Radio Free Europe, et apprécier ce qu'ils représentent, je reçois Maud Kessar, qui est directrice de recherche à l'IRSEM. L'atelier des médias, c'est dimanche à 11h10, temps universel, sur RFI.